Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du programme Scorpion, le programme d'équipement et de renouvellement des matériels et notamment des véhicules tout à fait majeur de l'armée de terre lancé officiellement il y a bientôt une décennie. J'ai le plaisir de recevoir la directrice de ce programme à la Direction Générale de l'Armement, l'ingénieur en chef de l'armement, Marie. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors je précise simplement, je n'ai pas l'habitude de présenter de nouveaux invités par leur prénom, mais évidemment, comme les auditeurs sans doute, c'est dans le cadre des procédures d'anonymisation des militaires dans les médias qui sont en place depuis la fin des années 2000. C'est la même chose que ce qu'on a notamment dans les épisodes dans le viseur avec les militaires issus des diverses écoles de guerre. Alors, je l'ai dit, mais Scorpion, c'est le programme absolument structurant de l'armée de terre qui remplace des milliers de véhicules, que ce soit les VAB, les véhicules de l'avant blindé, les AMX-10 RC, dont certains qu'on a donnés à l'Ukraine, les Saguet, etc., etc. Mais et évidemment, on y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est que ce remplacement se fait avec une architecture, avec une géométrie un peu différente. C'est pas exactement machine pour machine. Et par exemple, il y a plusieurs véhicules différents qui remplacent les différentes fonctions des véhicules de l'avant blindé. Mais tout d'abord, parce que je pense que vous résumerez ça bien mieux que moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer globalement quel est le concept du programme Scorpion, au-delà du fait que, évidemment, bon, périodiquement, il faut bien renouveler les flottes avec des équipements plus modernes. Quel est le concept au centre de Scorpion ?
Alors, à l'origine de Scorpion, enfin, si on veut remonter à l'origine du concept, je pense qu'il faut qu'on se positionne dans le début des années 2000. Moi, à cette époque-là, je suis en école d'ingénieur, je suis bien loin de me douter que je vais rejoindre la Direction Générale de l'Armement et que je vais travailler dans le domaine de la défense. C'est à ce moment-là qu'émerge un concept. Alors, on aimait déjà beaucoup les noms d'animaux, je pense, parce qu'on l'a appelé BOA, ce concept, ça voulait dire bulle opérationnelle aéroterrestre. Et on commence à se dire que dans l'avenir, avec les nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont révolutionner les matériels, on va changer de mode de combat et on va passer d'un combat isolé à un combat plutôt collectif, voire collaboratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui va faire la force finalement d'un système, ça ne va pas être chaque matériel individuellement, mais la manière dont on les connecte entre eux et dont ils peuvent partager l'information. Ensuite, tout ce concept-là, il a maturé pendant une bonne dizaine d'années jusqu'au lancement vraiment officiel du programme Scorpion, comme vous l'avez dit là en 2014. Scorpion, c'est une manière un peu différente de penser les programmes. Donc on pense, au lieu de penser vraiment à chaque performance de chaque matériel, on va plutôt réfléchir système. Pour être un peu concret.
Je peux préciser, ouais, parce que j'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait évidemment une expression derrière le Scorpion, c'est oui. Donc la synergie du contact renforcé par la polyvalence et l'infovalorisation, ce qui veut tout dire. Et
voilà, donc je ne sais pas si j'aurais su le dire moi-même, mais ouais. On a un peu un bingo des mots valides avec ça. Non, si on réfléchit système, ce que je veux dire là-dedans, c'est que, en disant ça, c'est que on va plutôt chercher un effet militaire final. Donc on va par exemple s'interroger sur le temps, une performance clé de Scorpion, ça pourrait être le temps qu'il va falloir entre la détection d'une menace ennemie et puis le traitement final de cette menace par un effecteur. Entre temps, finalement, il y a une bonne dizaine de matériels ou de sous-systèmes qui vont avoir eu besoin de travailler. On va avoir un détecteur de départ de coup qui va transmettre une information à ce qu'on appelle la Vtronic, donc l'électronique embarquée des véhicules, le système d'information qui va partager cette information avec les autres véhicules du champ de bataille, des algorithmes qui vont proposer des réponses, et puis à la fin un effecteur qui va tirer sur le char par exemple qui nous aurait menacé. Bon, tous ces sous-systèmes là finalement vont intervenir pour une performance globale qui est bien la performance du système. C'est comme ça qu'on a réfléchi au départ le programme Scorpion.
C'est-à-dire, il faut plus que toutes ces informations communiquent, c'est-à-dire la personne qui repère le départ de coup transmet l'information à quelqu'un d'autre qui transmet, etc., jusqu'à l'effecteur. Tout est directement dans une même plateforme qui, du coup, tout est traité et ça raccourcit les boucles.
Alors, ça raccourcit les boucles, effectivement. L'idée, c'est d'accélérer la décision. Enfin, c'est vraiment un des effets majeurs, finalement, de l'infovalorisation, c'est d'accélérer la décision. C'est aussi un peu d'alléger la charge cognitive finalement sur le terrain, parce que le chef de section ou le chef du sujet TIA, il peut se concentrer vraiment sur sa stratégie et pas forcément sur la transmission des informations. Ça va se faire tout seul via le système d'information. Donc oui, c'est aussi un peu une révolution dans la manière de mener le combat, et toutes les études préalables à Scorpion ont aussi permis de faire des démonstrateurs non seulement technologiques mais aussi un peu opérationnels pour que l'armée de terre se positionne et fasse des propositions sur la manière dont elle allait changer sa manière de combattre avec Scorpion.
Ce que j'allais dire, mais ça a l'air d'être une révolution totale par rapport à... On construit à partir de quoi, du coup?
Alors c'est total, mais c'est progressif, parce que finalement, on va peut-être en parler après, mais les équipements, ils arrivent sur le terrain progressivement, ils se remplacent progressivement les équipements précédents, puis l'armée de terre s'est organisée aussi pour avoir des régiments pilotes qui à chaque fois vont expérimenter les matériels, vont expérimenter les façons de faire. L'armée de terre a aussi mis en place une force qu'elle a appelée la force d'expertise du combat Scorpion pour écrire les doctrines en même temps que les matériels arrivent et qu'on les teste. Donc voilà, tout ça se fait très progressivement, politique, des petits pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à des exercices finalement en 2023, un exercice d'ampleur comme on vient de dérouler là dans les camps de l'Est de la France, où finalement au niveau brigade, on commence à avoir une vraie idée de ce que peut être le combat Scorpion sur une grande échelle, parce que progressivement, un certain nombre d'unités ont basculé et les formations et les appropriations se sont faites, quoi.
Est-ce que c'est fait à partir d'observations? Enfin, il y a évidemment le sens du progrès, la numérisation, le monde connecté, etc., qui est un truc très général qui touche tout le monde, pas que dans les armées. Est-ce que c'est fait à partir d'une étude, je sais pas, de la menace? Parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a un contexte. C'est évidemment les guerres des années 2000 et 2010 qui sont un contexte tout à fait particulier. Est-ce que c'est en observant ce que font d'autres? Je sais pas si les Américains, les Russes, qui que ce soit, avaient déjà fait des développements dans ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est une réflexion endogène, est-ce que c'est une observation, est-ce que c'est l'esprit du temps aussi en termes d'équipe?
Je pense que c'est beaucoup l'esprit du temps. C'est beaucoup l'esprit du temps, c'est aussi une observation de ce que faisaient les autres armées, qui avaient peut-être un peu d'avance sur l'armée de terre en matière de coopération ou de collaboration entre les différentes plateformes.
C'est les Américains, ça, j'imagine.
Non, je voulais dire les autres armées type marine et armée de l'air aussi, déjà en interne chez nous. Les Américains se sont frottés effectivement à des programmes ou des systèmes de la même envergure que Scorpion. À ma connaissance, ils n'ont pas quelque chose d'aussi abouti que ce que nous on a réussi à faire, notamment avec notre CICES, là on y reviendra peut-être, notre système d'information du combat Scorpion. Et puis, vous me disiez les menaces, etc. On a quand même, et d'ailleurs fort heureusement, on a quand même développé des véhicules et un système qui sont assez polyvalents. Parce que finalement, les menaces, elles ne cessent d'évoluer. On parlait beaucoup de... Enfin, on a quand même pas mal pensé les véhicules à un moment pour un théâtre type Sahel. Finalement, là, on se rend compte avec les exercices qu'on fait à Mourmelon ou avec les projections type Lynx qu'il faut aussi qu'ils soient dimensionnés pour des théâtres, pour des guerres un peu plus symétriques.
C'est un camp d'entraînement, et Lynx, c'est les projections, notamment dans les pays baltiques, la présence avancée de l'OTAN.
On se rend compte que finalement, c'est des systèmes qui sont très polyvalents.
Alors, du coup... Si on entre un peu justement dans le détail de ce que ça représente, alors il y a évidemment tout le bestiaire des différents véhicules qu'il va falloir détailler, parce qu'il est assez facile de confondre tout ça quand on n'est pas très familier avec l'armée de terre, mais pour une fois j'aurais aimé commencer au contraire par la structure, donc c'est la particularité, l'intégration numérique par ce fameux système CICES. Alors qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se présente? Je la pose mal cette question.
Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'information. Donc en fait, c'est un logiciel finalement qui remplace plusieurs systèmes d'information qui existaient précédemment dans l'armée de terre. Comment ça se présente? Ça se présente comme des systèmes informatiques qu'on vient mettre dans les véhicules, qu'on vient mettre aussi dans les PC de GTIA, de sous-GTIA, donc ça sert aussi sur PC de bureau pour le commandement. Puis dans les véhicules, on a des, des PC un peu plus durcis ou des tablettes durcies. On a aussi des tablettes débarquables. Tous ces éléments tournent sur le même système d'information, ce qui fait que quand on alimente ce système d'information, finalement, tous les véhicules présents sur le terrain, certains combattants débarqués et les personnes qui sont dans les PC, bientôt les hélicos aussi, peuvent partager la même information de manière instantanée. Donc, le CKS, il traite...
C'est hyper bête, mais comment, est-ce que c'est des cartes? Est-ce que c'est... Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, est-ce que c'est des, ça passe par l'espace, par la carte?
Enfin, ouais, alors, il y a de la carto, il y a beaucoup, beaucoup de carto. Donc, si on se balade, effectivement, dans un exercice et qu'on regarde ce qui est affiché sur les écrans CKS, c'est quasiment tout le temps de la carto qui est affichée, avec ce qu'on appelle une situation tactique, c'est-à-dire principalement le suivi des pions amis. Donc, on voit... où sont nos alliés sur la carte. Ça se fait automatiquement, donc c'est les positions GPS des véhicules, des différents pions qui remontent automatiquement. Donc là aussi, c'est une énorme charge de travail en moins par rapport à avoir à se signaler en permanence à ses alliés. Le chef tactique, il voit quel type d'équipement il a à tel endroit. Il va pouvoir voir aussi, par exemple, combien de munitions il reste en stock à tel ou tel véhicule, ce qui fait que pour préparer son plan de bataille, sa tactique, sa riposte, il a énormément d'éléments. Ça, c'est la situation AMI. Et puis, on peut aussi, via cette carte, on appuie sur l'écran. On vous propose, un peu comme dans Waze, en fait. C'est un peu l'idée. Voilà, on peut marquer un danger. On peut dire, là, j'ai repéré un champ de mine. Là, j'ai repéré un ennemi. Il a telle caractéristique. Il est armé de telle manière, etc. Les unités du génie vont pouvoir dire, bah voilà, moi j'ai mis un pont à tel endroit, j'ai bréché tel truc, j'ai miné telle plateforme, etc. Ce qui fait que cette situation tactique, elle est partagée de manière quasi instantanée. Après, il y a les débits de transmission, mais de manière quasi instantanée, elle est partagée. Ça a évidemment le mérite de réduire énormément les risques de tir fratricide, ce qui est une chose évidemment très intéressante. Mais surtout, ça accélère beaucoup la manœuvre et on gagne du temps sur la prise de décision vis-à-vis de l'ennemi.
Est-ce que les ordres, ils passent par là ou est-ce
Ouais,
que ça
les passe... ordres, ils passent par là.
C'est donc... plus par la radio, on n'utilise pas la voix. Maintenant, on utilise
Alors,
le texte.
On peut transmettre ces ordres sur CKS, c'est fait pour. Les ordres sont transmis sur CKS. Donc soit via des cartos aussi qui détaillent les différentes manœuvres. Il y a du chat, il y a du textuel. Dans les faits, les soldats continuent à se parler à la radio parce que ils apprécient aussi d'avoir le contact, le retour direct, etc. Sauf dans les moments où ils veulent justement être très discrets. Et donc là, le système permet d'être complètement en silence radio.
Alors, du coup, la question que ça pose immédiatement, c'est la sécurité, le cryptage, le côté sécurisé de tout ça, puisque à partir du moment où il y a tout, c'est-à-dire à l'époque où il pouvait y avoir une transmission radio qui était interceptée, pas interceptée, etc., c'était un danger restreint. À partir du moment où toutes les données sont sur une interface, ça pose évidemment le danger de, et si quelqu'un pénètre sur cette interface, quoi. Il a tout d'un coup.
Comme dans tous les systèmes de plus en plus informatisés, la cyber, ça fait partie des performances qu'il faut spécifier, vérifier, contrôler en continu. Donc on a des démarches d'homologation, ce qu'on appelle homologation SSI ou cyber des différents systèmes et donc du système dans son ensemble puisque tout est interconnecté. Au-delà de cette homologation, on a aussi régulièrement des exercices avec des unités spécialisées qui viennent et qui jouent à essayer de hacker nos systèmes pour qu'on voit quelles sont les vulnérabilités. Et c'est là aussi, on a de l'amélioration continue.
Et c'est tout bête, mais est-ce qu'il faut s'authentifier en permanence sur ce système?
Oui,
bien sûr. Du coup, j'imagine, mettons en conflit de haute intensité, type Ukraine entraînement, type Ukraine en ce moment, il y a tout le temps des véhicules qui sont perdus. Je pense à si l'ennemi tombe sur ça, il faut qu'il y ait une manière de brouiller, de rendre inerte.
Oui, on a des possibilités de destruction d'une pièce ou d'un pion qui serait tombé à l'ennemi, ouais, tout à fait.
Mais alors, du coup, l'autre corollaire aussi, c'est comment tout ça communique, parce que ça dépend où on est projeté. Mais...
Alors tout ça communique via la radio en général, et puis via les liaisons satellitaires quand on est sur des distances trop étendues, comme c'est le cas au Sahel, ou quand on veut communiquer avec la métropole. La plupart des moyens de communication sont compatibles CKS. Enfin, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est CKS qui est compatible la plupart des moyens de communication.
Et c'est
soit de la HF avec Melchior, les radios contacts. Contact, les radios PR 4G, les satellites Syracuse, on a des griffons équipés
Syracuse. Mais donc c'est par des satellites militaires, ouais. Dire, on n'est pas dépendant d'un système, parce qu'évidemment ça pose la question.
Non, nos communications de théâtre, elles passent par le système Syracuse, ouais, qui est un satellite militaire.
Ouais, d'accord. Donc il faut un satellite pour aller avec tout ça. Okay. Alors, donc là, on a l'architecture, en quelque sorte, l'interface. Et maintenant, si on passe aux plateformes, alors, je ne sais pas, vous voulez commencer par laquelle parce qu'il y a...
On peut regarder chronologiquement comment ça s'est déroulé. Scorpion, finalement, on l'a lancé, ce programme, en 2014. Premier véhicule qui est arrivé dans les forces en 2019, c'est le Griffon. Voilà. Donc là, on a plus de 500 griffons livrés. Je crois qu'on vient de livrer notre 575e. Je consulte mon papier pour ne pas me tromper, mais oui. On a 575 griffons livrés depuis 2019. Le deuxième véhicule du programme Scorpion, par ordre chronologique, c'est le Jaguar. Hein, donc le Jaguar. Alors le griffon, c'est plutôt un véhicule de transport de troupes. Principalement, sa principale mission, c'est de transporter les troupes au plus proche du contact.
C'est vraiment une sorte d'équivalent. D'ailleurs,
ouais, c'est le successeur. Enfin, c'est un des deux successeurs du VAB. Mais oui, c'est le successeur du VAB. Il y a un saut générationnel entre les deux véhicules, mais en termes de mission, on est très proche, ouais, tout à fait. Ouais. Donc les troupes sont transportées sous blindage, donc on peut transporter 10 soldats félinisés dans le Griffon. Et puis c'est plutôt vocation effectivement à transporter des fantassins qui ensuite vont débarquer et qui vont délivrer le combat. Donc c'est pas le Griffon qui est l'effecteur lui-même, il peut transporter, soutenir les fantassins. Il a son propre armement d'autodéfense. C'est pas le Griffon qui va détruire un char ennemi, quoi.
Félinisé, rappelons, c'est des fantassins qui sont avec l'équipement félin, qui est un programme de très long terme de l'armée de terre qui pendant longtemps a mal marché, mais qui disons rajoute tout un tas d'équipements électroniques à l'équipement traditionnel du fantassin.
Tout à fait. Ouais. Électronique et pas que d'ailleurs, ils ont tout ce qui est gilets, vêtements, voilà.
Donc ça, c'est le Griffon qui est, bon, pour faire simple, disons, une sorte d'équivalent du VAB. Mais alors, le deuxième, c'est donc le Jaguar.
Donc le Jaguar.
Qui est aussi un équivalent du VAB un peu, mais
alors
aussi...
Alors ça, c'est le Serval plutôt. Ouais, le Jaguar, lui, c'est le successeur du 10RC. Donc c'est un véhicule qui est vraiment armé, là, pour le coup. C'est un véhicule de combat. Hein, on l'appelle l'engin blindé de reconnaissance et de combat. Il ne transporte pas de troupes. Lui, dans le Jaguar, on ne met que trois personnes. Le pilote, le chef d'engin et le tireur. Le Jaguar, il est armé d'un canon de 40 mm et de missiles MMP. Donc le même missile que celui qui est utilisé par le Fantassin, le missile moyenne portée. Voilà.
Et il remplace un peu la Sagaie aussi.
Ouais, il remplace aussi un peu la Sagaie et aussi un peu le Vabot.
Ouais, voilà. Donc, oui, c'est ça.
Voilà. Il est assez polyvalent.
Donc Vabot, c'était un VAB muni de missiles HOT qui étaient des missiles anti-chars. Qui était aussi sur les hélicoptères Gazelle.
Voilà. Donc maintenant, c'est effectivement le MMP qui fait cet office. C'est un véhicule qui est assez polyvalent aussi, qui est notamment plus dessiné pour le combat urbain que ses prédécesseurs, en particulier parce qu'il a un site de déploiement de son canon à angle haut qui est assez ouvert.
Donc il peut monter au-dessus du deuxième étage.
Ouais, voilà, exactement. Et puis comme toute la gamme des véhicules Scorpion, c'est des véhicules qui sont très bien protégés en termes de protection contre les mines et les IED. Ça, c'est assez notable aussi par rapport aux générations précédentes.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, quand on le voit et qu'on compare avec les autres, on voit qu'il est plus haut, il a l'air plus blindé en dessous.
Ils sont plus massifs, ils sont assez massifs en fait. D'apparence, ils sont assez massifs, ces véhicules.
Et tout ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est des véhicules dont le poids augmente très nettement. La MX-10RC, qui était donc plus ou moins l'équivalent avant, c'était autour de 15 tonnes à la louche. Là, on est plutôt autour de 25. Donc ça veut dire que ça pose aussi toutes sortes de contraintes pour le déploiement. Enfin, on change de gamme, quoi.
On appelle la mobilité stratégique, ouais, tout à fait. Alors c'est aussi pour ça qu'on a le Serval, qui est le blindé, qui est un peu plus petit que le Griffon, hein, qui a des missions comparables et qui finalement va durer moins longtemps en combat et qui va plutôt aller sur des missions avec déploiement rapide et repli plus rapide aussi. L'augmentation du poids des véhicules, c'est principalement lié justement à ces sujets de protection contre les mines et les IED. Donc on a des niveaux de blindage qui sont au meilleur standard de l'OTAN, Et ça fait partie, alors moi je trouve que ça fait partie des essais qui sont les plus impressionnants à observer. Donc quand on fait tous les essais de qualification, on y reviendra peut-être hein, dans les centres de la Direction Générale de l'Armement, les essais de caisses de véhicules où on fait vraiment sauter les véhicules sur des mines ou des IED pour savoir si tout a tenu à l'intérieur, faut voir ça une fois dans sa vie, quoi.
Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la solidité et puis il y a aussi c'est des véhicules qui sont pensés un peu différemment pour diffuser aussi l'effet de souffle parce qu'on sait que c'est pas que le plancher crevé qui tue des gens sur un VAB ou ailleurs, c'est aussi l'effet de blast et du coup c'est même des véhicules dont la structure de châssis est pensée différemment.
Absolument, ouais. On a vraiment une construction, on a vraiment une caisse. Qui est tout d'un bloc qui est solide et qui va à la fois être conçu pour dévier les effets de blast et puis pour rester structurellement intact. C'est pas le plus simple forcément. On a aussi tout ce qui est vérification de l'arrimage de tous les matériels à l'intérieur parce que c'est un peu si la caisse a résisté et que finalement c'est une radio qui devient qui est projetée et puis qui devient une arme à l'intérieur du véhicule, on a tout raté. Donc quand on fait ces essais là, on a des mannequins instrumentés, on a tout l'équipement du véhicule qui est représenté et à la fin il faut que tout soit resté accroché quoi. Donc c'est
voilà. Alors le troisième, on en a parlé un peu déjà, c'est Serval. Ouais. Comment il se distingue des autres?
Alors, le Serval, c'est le petit frère du Griffon.
Ouais.
Donc, c'est un véhicule de transport de troupes. Même si le Serval, c'est le véhicule qui a le plus de versions différentes. Donc, l'armée de terre considère un peu que c'est son couteau suisse.
C'est intéressant, il est moins central dans les pages, notamment de l'armée de terre, sur le programme.
Parce qu'il vient d'arriver, en fait. Il vient d'arriver. Donc, les Griffons, ils sont dans l'armée de terre depuis 2019. Les premiers Serval, ils ont été livrés à la DGA en fin d'année dernière, mais c'est qu'en janvier-février de cette année qu'ils sont arrivés vraiment en régiment. Donc, il est tout nouveau. Il n'a pas encore été déployé en OPEX, en opération extérieure, alors que le Griffon, il a fait le Sahel. Donc, on a quand même beaucoup plus de retours d'expérience sur le Griffon. Donc oui, bien sûr, on a plus d'informations, plus de communication autour du Griffon.
Comme un symbole, lui, il n'a que 4 roues, alors que les autres ont 6.
Et voilà, et donc exactement, c'est comme ça, c'est une bonne manière de le distinguer. Le Serval n'a que 4 roues. Et le Serval, on peut. Un des intérêts de sa taille un peu plus réduite, c'est qu'on peut en mettre 2 dans un A400M. Donc voilà, en termes de mobilité stratégique, comme on dit, ou de projection sur le théâtre, ça fait partie des gabarits qui ont permis sa conception.
Alors que les autres, on peut en mettre qu'un.
Voilà, exactement.
Mais on peut quand même les transporter.
Ouais, tout à fait, ils sont aérotransportables en A400M. Ouais.
Ok. Et enfin, le dernier pion, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'est le Charles Leclerc. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est...
C'est pas le dernier parce qu'on a le MEPAC aussi qui va arriver après, mais on en reparlera.
Ouais, mais qui est une version de...
Oui, on peut considérer comme une version de Griffon. Elle est sur une base d'architecture Griffon.
Mais oui, mais alors du coup, le c'est intéressant, le Leclerc XLR, c'est pas une plateforme développée pour... Enfin, c'est une plateforme qui est adaptée, mais c'est modernisée, infovalorisée. Ouais. Mais là, il faut faire avec l'existant déjà... qui commence à avoir de l'âge déjà. Donc, quelle est la différence et comment est-ce que ça se développe différemment d'ailleurs?
En fait, la différence, c'est qu'il faut effectivement, comme vous dites, gérer en parallèle des sujets de développement, de nouveautés, et puis tous les sujets de maintenance, de MCO, de maintien en condition opérationnelle, de pérennisation de ce véhicule, avec des technologies qui datent un peu et notamment des pièces ce qu'on appelle qui deviennent obsolescentes, donc la gestion de l'obsolescence sur tous les programmes d'armement d'ailleurs, en général, que ce soit dans le naval, dans l'aéro ou autre, c'est toujours toute une aventure parce que sur toute la durée de vie, il y a des fournisseurs qui n'existent plus, il y a des pièces qui deviennent obsolètes, qui ne se fabriquent plus, etc. Donc c'est tout un travail qu'on gère. Alors à la DGA, en parallèle avec les services de soutien, donc là en l'occurrence avec la CIMT, hein, qui est plus en charge de tout ce qui est maintenance du matériel. Mais donc tout ce qui est rénovation du Leclerc, l'objectif c'est bien de caler les chantiers de rénovation, bien sûr, avec les chantiers de maintenance profonde pour...
Oui, mais c'est tout bête, mais j'imagine bien qu'il faut mettre plein de batteries supplémentaires dans un nouveau Leclerc compatible avec Scorpion, parce que, enfin, je sais pas, je suis jamais entré dans un Leclerc,
il y en a
de plus en plus, il faut de la place, la caisse, enfin, le châssis, il n'est pas extensible. Enfin, bon, ça doit être une sorte de mécano, alors que quand on développe un truc depuis zéro, on peut, c'est beaucoup plus modulaire et on peut beaucoup
plus... c'est des approches qui sont un peu différentes. Ensuite, on a la chance d'avoir des experts qui connaissent encore très bien ces véhicules-là, que ce soit dans la Direction Générale de l'Armement ou dans l'Armée de Terre. On reprend pas un truc en disant mince, on a perdu les plans, comment on va faire quoi. Donc, comme c'est des matériels qui sont complexes et qui demandent au quotidien finalement une gestion de faits techniques, une gestion d'obsolescence, un entretien, on continue à avoir des équipes qui connaissent bien les véhicules et qui savent, chez les industriels aussi d'ailleurs. Enfin, la compétence n'est pas perdue, voilà ce que je veux dire sur ces générations-là.
Et donc le dernier, donc c'est le MEPAC, c'est un mortier.
Ouais, c'est un mortier embarqué dans un Griffon. Donc on a le toit qui s'ouvre et puis on peut tirer au mortier. Ce véhicule-là, il est en cours de qualification. Donc il a fait ses essais de tir en rafale cette année, cet été, à DGA Technique Terrestre dans notre centre de Bourges. Ça s'est bien passé. Donc on devrait voir les premiers exemplaires l'année prochaine. On devrait même avoir un MEPAC exposé sur le salon Eurosatory. Donc voilà.
Donc
il arrive dans les forces en juin 2024.
Mais c'est très important ça d'ailleurs, parce que c'est enfin les montrer, faire que les gens entrent dedans, enfin dans l'Eurosatory encore, il y a un an et demi maintenant, c'était...
Ouais, Eurosatory, 14 juillet, enfin il y a des opérations de relations publiques, là, comme on appelle ça dans les armées régulièrement, ouais, pour que le public rencontre les véhicules aussi.
Et justement, ces salons-là, ça pose la question de l'interaction avec les industriels, parce que Eurosatory, c'est le salon des industriels de l'armement très, très largement. Est-ce que c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est vrai pour le naval, c'est vrai pour l'aérien, c'est vrai pour le terrestre aussi, c'est pas la DGA qui construit elle-même ses équipements, c'est des industriels, c'est Arcus et Nexter pour les véhicules eux-mêmes, il y a aussi Atos pour le système Sikes, il y a Thales pour les systèmes embarqués, etc. Donc c'est complexe, et concrètement à quel point c'est imbriqué, à quel point est-ce que c'est la DGA qui est à la manette mine de rien de tout ça, de la construction de ces véhicules, à quel point est-ce que c'est vous passez commande et vous voyez à la fin, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que c'est en synergie le public et le privé sur ces projets-là?
Alors je fais une petite digression sur effectivement comment ça fonctionne un programme d'armement. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un programme d'armement et comment ça fonctionne? Donc effectivement, la Direction Générale de l'Armement, on ne fabrique pas, on n'a pas d'usine, on fait faire les matériels par des industriels français dans leur immense majorité. On ne conçoit pas non plus, quoique, je m'explique, si vous avez une frégate qu'on va faire à Naval Group, vous avez un missile qu'on va faire à MBDA, et puis sur cette frégate, il y a un radar qui est fait par Thales. Ben voilà, chaque industriel est compétent dans son propre domaine, à l'interface de tout ça. Finalement, le seul garant que quand on va appuyer sur le bouton, le missile va aller au bon endroit, c'est la DGA. Donc, on aime dire qu'on est maître d'œuvre du système de défense, c'est-à-dire qu'on est maître d'ouvrage sur chacune des composantes, mais sur le système dans son ensemble, c'est bien la DGA qui est responsable de son architecture et de son fonctionnement in fine. Donc on conduit les grands programmes d'armement pour équiper les forces armées, qui est notre principale mission. Donc c'est 80 à 100 programmes, 100 grands programmes d'armement qui sont conduits en continu. Rapidement, on y reviendra si vous voulez. Les autres missions de la DGA, c'est la préparation de l'avenir, c'est-à-dire tout ce qui est recherche et technologie pour les armements des futures décennies, pour le coup. Et puis soutien à la base industrielle et technologique de défense. C'est là qu'on a aussi un rôle de partenariat, comme vous disiez, avec les armées, avec les industriels, dans cette mission-là. Pour ce qui est de la conduite des programmes, effectivement, un Griffon, ça ne s'achète pas comme on achète une machine à laver chez l'artiste. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt comparer ça à faire construire une maison avec des exigences très compliquées sur un terrain qui est inconnu et en utilisant des technologies qui sont très novatrices avec un projet architectural un peu innovant quoi. Donc je pense que les gens qui ont déjà fait construire leur maison savent tous que on peut pas dire voilà ce que je veux et revenir 3 ans après et que ça ait fonctionné. On est présent à toutes les étapes, donc ça commence par spécifier, c'est transformer un besoin opérationnel en spécification technique. Par exemple, on va vous dire, les armées vont vous dire, moi je veux que mon véhicule puisse faire sa mission dans le désert, par exemple. Alors, faire sa mission dans le désert, ça c'est pas, c'est pas une exigence qu'on peut retranscrire comme ça dans un contrat avec un industriel. C'est pas vérifiable, c'est pas qualifiable, c'est pas auditable. Donc bah ça va se transformer.
Ouais, c'est pas auditable, c'est-à-dire l'industriel il peut vous dire,
dire bah ouais, moi je trouve que ça roule, bah, et puis voilà, votre officier de programme il va vous dire bah non mais ça fonctionne pas du tout, et puis bah là on est comme deux ronds de flanc quoi. Donc spécifier, ça veut dire bah qu'on a des ingénieurs qui sont capables de, en discutant bien sûr avec les opérationnels, hein, de dire bah c'est-à-dire quelle vitesse, dans quel type de terrain, quelle reprise, on peut passer de 0 à 20 km/h dans le sable sur une dune en combien de temps,
un cahier des charges quoi.
Un vrai cahier des charges. Et puis bah, sur cet exemple de sable, ça va être aussi il faut qu'il y ait des filtres pour qu'il n'y ait pas des particules de poussière qui s'insinuent dans tous les équipements électroniques, voilà. Donc tout ça, ça se spécifie. Et puis, à la fin, donc je reviendrai sur le milieu du processus, mais à la fin, ça se qualifie. Et donc, tout à la fin, quand l'industriel, finalement, livre des prototypes, ces prototypes-là, ils sont soumis à une batterie de tests, donc, en l'occurrence, dans les centres techniques de la DGA, donc des tests sable, pour rester sur cet exemple-là, on en fait, donc on fait des roulages sable dans notre centre de Biscarros, sur les véhicules, et donc on vérifie toutes leurs caractéristiques, et puis à l'issue, on ouvre le capot, on regarde qu'est-ce qui est encrassé, qu'est-ce qui n'est pas encrassé, est-ce que ça fonctionne.
Tout ça fonctionne encore, est-ce qu'on peut le faire sauter sur une mine maintenant?
Est-ce qu'on peut le faire sauter sur une mine maintenant? Non, ça on le fait au début, faire sauter sur des mines, parce que ça remet en cause toute l'architecture, donc si ça marche mal, là, il faut vraiment faire ce type d'essai-là en tout début de développement. Donc on est présent à toutes les étapes, on a souvent des choix finalement à faire de conception, parce que ce qu'on a spécifié en début, donc vous commandez, enfin vous spécifiez en 2014, là en l'occurrence un véhicule qui doit arriver en 2018, en faisant des paris sur des technos qui sont pas matures au moment, qui sont pas toujours matures au moment où vous spécifiez, et donc au fur et à mesure, bah voilà, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des choix à faire, des améliorations à faire, des renoncements à faire aussi, ça peut arriver, et donc tout ça on le fait en commun avec les forces et avec les experts de la DGA.
Et ce que j'allais dire, c'est du coup l'autre, c'est un triangle quoi. Donc il y a les industriels, il y a vous, et il y a les forces.
Ouais.
Et à quelle intensité ça se fait aussi avec les forces? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a en permanence des fantassins ou des...
Il y a quasiment en permanence.
Qui sont dans l'usine,
dans les usines, pas trop. Sur la partie production, pas trop. J'y reviendrai après. Sur la partie développement. On est quasiment toujours en trinôme, quoi. Ouais. Les industriels, les experts de la DGA et les spécialistes des forces armées. Je donne un exemple parmi d'autres, mais on a régulièrement, donc, quand on conçoit un véhicule, des GT, des groupes de travail qu'on appelle IHM, donc tout ce qui est interface homme-machine. Par exemple, l'industriel va nous proposer des images des différents écrans, en disant bah, voilà, telle fonctionnalité, voilà comment l'écran va se comporter. On a, nous, des experts en ergonomie qui vont dire, bah voilà, ok, la charge cognitive, là, elle est trop grosse, donc ça va pas être possible sur le terrain. On a des experts qui savent se prononcer là-dessus. Et puis, à côté, il y a des opérationnels qui vont aussi apporter leur expérience du champ de bataille en disant, non, là, dans une action réflexe, il vaut mieux mettre tel bouton au milieu de l'écran. Enfin, voilà, c'est des au quotidien, finalement, et sur toutes les fonctions du véhicule, au quotidien, on va avoir ce type d'échange. Les industriels proposent, et nous, on contrôle que ça convient, et au fur et à mesure.
Mais c'est intéressant que ça convient donc à l'État aujourd'hui. Je ne sais pas, j'y pense, parce qu'aux États-Unis, il y avait toute cette histoire des écrans tactiles, notamment sur les frégates, où ils ont fini par les enlever, parce qu'ils s'apercevaient que quand bien même c'était l'avenir et que tout le monde se dirigeait vers les écrans tactiles, en fait, ça ne convenait pas au moment donné pour les forces. Donc il y a une sorte de chose de dans quelle mesure est-ce qu'on essaie de faire un truc un peu visionnaire, parce que ces équipements qui vont rester très longtemps, ils vont rester 20, 30, 40, 50 ans, et dans quelle mesure est-ce qu'on est obligé, mine de rien, d'avoir une grosse continuité avec ce qui est aujourd'hui, parce que les gens qui sont... il y a des gens qui peuvent rester sur VAB et qui vont pas passer sur Scorpion, mais il y en a quand même une grande partie qui vont faire la transition, et il faut que ça se fasse un peu en souplesse quand même.
Alors la transition, je dirais pas que c'est le... Enfin, la transition au niveau des équipages, je dirais pas que c'est le problème majeur, parce que ils sont quand même super adaptables dans l'armée de terre, enfin dans les militaires en général. Enfin, c'est leur boulot, quoi. On leur présente un nouveau matériel, bah, ils se l'approprient, ils se forment, enfin, ils sont bons, quoi. Non, le sujet... Enfin, la question qu'on se pose assez régulièrement, effectivement, c'est cet équilibre entre robustesse et technologie, quoi. Faut pas non plus qu'on aille trop dans le délire architectural, dans le délire technologique. Ça peut arriver qu'on se trompe, je dis pas le contraire, et qu'on revienne en arrière. C'est quand même très peu arrivé. Il faut avoir un dialogue vraiment super nourri, ouais.
À quelle fréquence, mettons là les cervelles, donc ils viennent d'arriver, à quelle fréquence depuis, je sais pas, des mois ou des années, de temps en temps ils en sortent un pour le filer à des forces, pour qu'ils jouent avec et qu'ils voient comment ça marche.
Il y a toute une partie conception papier, on va dire, papier du véhicule, pendant laquelle on n'a pas encore de proto. Ça a peut-être duré, 2 ans. Au bout de 2 ans, on va commencer à avoir un proto, on va commencer à pouvoir jouer avec, entre guillemets. Alors, c'est pas jouer avec, on a des programmes d'essai qui sont effectivement partagés entre les industriels, les forces, la DGA, pour avoir un temps de qualification qui soit le plus court possible, parce que l'objectif, c'est quand même de délivrer le plus tôt possible des matériels aux forces.
C'est vrai que le prototype ne revienne pas tout casser non plus.
Alors, il en faut plusieurs, des prototypes. Il en faut plusieurs. Et puis oui, bien sûr, les essais, c'est encadré. On sait à l'avance, on a un programme d'essais, on sait à l'avance ce qu'on va faire, etc. À quelle fréquence, en fait, les véhicules, ils sont en essai quasiment en continu sur toute leur période de qualification qui peut durer 2 ans. Alors c'est tuilé avec la période de développement, donc on commence à faire les premiers essais assez tôt. Comme je disais tout à l'heure, les essais de mine, ça se fait assez tôt parce que ça qualifie finalement la structure, un certain nombre d'équipements, mais principalement la structure. Et puis il y a des essais qui sont vraiment tout à la fin, typiquement un essai de compatibilité électromagnétique. Donc là, on va soumettre le véhicule à des rayonnements type radar ou qui va pouvoir trouver dans sa vie de tous les jours. On va vérifier que tous les équipements électroniques continuent à fonctionner et ne se perturbent pas entre eux. Bon, ça ne peut être fait qu'à la fin quand tout est finalisé. Donc les phases de développement et de qualification sont tuilées là encore pour gagner du temps. Mais finalement, un véhicule, il va avoir subi 2 ans d'essai. Pour le Jaguar, on doit avoir 4 ou 5 protos qui tournent en continu sur les centres d'essai de la DGA et aussi sur les camps de l'armée de terre pour faire, alors on appelle ça plutôt des évaluations technico-opérationnelles. Ce que fait l'armée de terre, elle les met plus dans des conditions de terrain. Nous, sur des essais techniques de tir, par exemple un essai de tir 40 mm du Jaguar dans un centre de la DGA, On va qualifier des performances, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très auditable, très mesurable. On se met dans le sens du vent, on a des anémomètres de partout pour vérifier, mesurer la distance du vent. On a des caméras thermiques, caméras radar, haute vitesse, qui vont vérifier si la munition elle est partie à la bonne vitesse. Et puis ensuite, on va dépouiller les résultats et reparamétrer effectivement par rapport aux conditions météo pour voir si l'industriel il a bien tenu sa performance, qui va être une performance statistique, etc. Très calibrée, quoi. Les essais ou les évaluations qui vont être faites par l'armée de terre, on est plus dans, on va faire un parcours de tir et on va voir si on touche nos cibles en contexte opérationnel avec de la sollicitation partout, des ennemis à gauche, à droite. Donc voilà, c'est extrêmement complémentaire finalement comme démarche. Enfin, les deux sont indispensables pour vérifier qu'à la fin, le matériel il est vraiment bon de guerre.
Et vous, dans cette architecture-là, le rôle de la directrice de programme, c'est quoi? Parce que c'est intéressant. Je sais pas depuis quand exactement vous êtes là, mais c'est limité dans le temps sur un programme qui est extrêmement long. Ça fait 10 ans qu'il est en route, il est là encore pour 15, 20, 30 ans, etc. Donc, c'est quoi votre action concrètement à l'intérieur de tout ça?
Ah, moi, je suis un peu le chef d'orchestre de cette équipe, en fait. Pour conduire ce programme, en fait, on monte une équipe qu'on appelle, dans notre jargon, l'équipe, le DPI, l'équipe de projet intégré. Il y a des membres de la DGA et puis des membres des forces. En face de moi, j'ai un officier de programme qui est mon homologue dans l'armée de terre, qui est aussi pilote de l'équipe côté armée de terre. Et je dirais qu'ensemble, on manage ces équipes-là. Alors, il va y avoir des acheteurs, parce qu'il faut passer les contrats, il faut négocier les contrats, il faut vérifier que les contrats sont bien exécutés, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu administrative et contractuelle, mais c'est déterminant. Hein. On va avoir des spécialistes des finances. On n'a pas parlé finances encore, mais Scorpion, c'est un programme qui a un budget de l'ordre de 11 milliards d'euros. Ça dépend des années, mais c'est environ 1 milliard d'euros de dépenses par an, en fait, qu'il faut exécuter à l'euro près, hein, ou quasiment. Donc ça demande aussi un gros boulot. Donc on a des spécialistes financiers dans les équipes, et puis on a beaucoup de spécialistes techniques, c'est-à-dire que j'ai un expert mobilité qui va aller conduire les essais de mobilité des véhicules, vérifier leur leur performance sur des pistes. On a des pistes dans notre centre à Angers, on a des pistes avec des obstacles, des pistes bosselées qui permettent de vérifier le comportement des suspensions ou autres. Je vais avoir un expert com pour tout ce qui est communication, je vais avoir un expert justement compatibilité électromagnétique qui va savoir dire on a soumis le véhicule à des champs radars, il y a un truc qui a planté, pourquoi est-ce que c'est un câble qui n'était pas assez protégé. Donc voilà, on est organisé en matriciel, grosso modo, à la DGA, c'est-à-dire que des experts, typiquement là, celui dont je parlais, compatibilité électromagnétique, il va bosser pour plusieurs programmes, il ne travaille pas que pour Scorpion. Mais sur chaque domaine, on a cette expertise qui nous permet de challenger l'industriel et d'être une maîtrise d'ouvrage avisée.
Ouais, vous faisiez quoi avant? Vous êtes ingénieur en chef de l'armement, ouais. Vous avez un parcours d'ingénieur à la DGA, ouais. Mais c'était quoi votre spécialité?
Moi j'ai fait l'école des ponts et chaussées, donc je suis quand même un peu atypique en termes de profil parce que j'ai pas fait d'école de l'armement.
C'est notamment Polytechnique.
Alors là, effectivement, la plupart des ingénieurs de l'armement sont issus de Polytechnique, même si on est quand même un certain nombre à venir d'autres écoles. Moi, j'ai commencé dans le domaine naval. Je me suis occupée au tout départ, de systèmes de sécurité incendie sur les bateaux. Voilà. Donc,
c'est excessivement crucial.
C'était ça mon premier job. Bah, en fait, c'est bizarre de se dire qu'un bateau, c'est au milieu de la mer, mais que le premier risque sur un bateau, c'est l'incendie.
De tout temps, ça a toujours été ça.
Ça a toujours été ça. D'autant plus sur un bateau de guerre, on va avoir des munitions, éventuellement une chaufferie nucléaire. J'ai fait quelques postes dans le naval. Je me suis occupée en particulier à la fin de ma première partie de carrière, comme on dit, de préparer l'arrêt technique numéro 2 du porte-avions, qui était une grosse rénovation en fait du porte-avions Charles de Gaulle. Souvent, après quelques premiers postes techniques, on fait des postes dits transverses, c'est-à-dire c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait un poste en finance, donc j'étais adjoint finance. Du directeur de l'unité de management opération navale. Bon, ça c'est notre jargon. Enfin bon, en gros, je gérais les finances du domaine naval à la DGA. En fait, les finances, c'est vraiment une compétence clé dans mon poste actuel. C'est vraiment quelque chose qui est absolument déterminant. Comprendre comment fonctionne le budget de l'État, comment on exécute, comment on programme les finances, comment on fait une LPM, comment on exécute au quotidien les budgets, comment on engage les actes, comment on liquide nos factures. Tout ça, c'est vraiment déterminant. Et puis après ce poste en finance, je suis partie au cabinet du délégué général pour l'armement, c'était Joël Barre à l'époque. J'ai passé 2 ans et demi au cabinet. Et puis ensuite, j'ai eu envie de changer, de changer des bateaux, et puis de découvrir un autre milieu, une autre armée, d'autres industriels. Donc, je me suis retrouvée dans le terrestre et sur Scorpion. Voilà.
Mais c'est intéressant parce que 2019. Ça pose la question de votre niveau de familiarité, en fait, parce que c'est des nouvelles problématiques par rapport à celles sur lesquelles vous étiez spécialisé au départ. Mais ça pose aussi la question de ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que c'est du pilotage d'équipe, de projet, et dans quelle mesure jusqu'où est-ce que vous avez besoin en fait de comprendre ce qui se fait. D'un point de vue d'ingénierie, d'un point de vue technique, quoi. Jusqu'où est-ce qu'il y a besoin d'entrer dans la granularité?
Comprendre, oui, entrer dans le détail, non. En fait, déjà, il faut savoir aussi renoncer un peu à rentrer dans le détail de chaque sujet. Je pense que beaucoup de chefs de projet vous diront ça, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs. Enfin, finalement, quand l'équipe tourne bien et bien organisée, moi, il ne me remonte que les sujets problématiques, finalement, tout ce qui se déroule bien, je ne le vois pas, d'ailleurs, c'est un côté frustrant parfois, mais... Donc oui, il faut comprendre suffisamment pour être en mesure de d'aider les équipes et d'aider les gens qui sont vraiment, pour le coup, très pointus et très compétents dans leur domaine technique, les aider à prendre les bonnes décisions, à prendre suffisamment de recul. Mais souvent, moi, mon rôle, ça va plutôt être ça va être de leur faire prendre du recul sur la problématique technique. Quand j'ai un spécialiste qui vient me voir avec un problème, et en fait, lui, il comprend très bien son domaine, et en général, il sait bien me l'expliquer. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail.
J'ai pas besoin de refaire les équations
à
sa place.
Non, j'ai pas besoin de refaire les équations à sa place. J'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, souvent, lui, il les a refaites à la place de l'industriel, déjà. Donc, il y a déjà une confrontation de point de vue entre le point de vue industriel et puis le point de vue de l'expert DGA. C'est là que moi, j'interviens, quand justement, il y a des problèmes de confrontation de point de vue. Mais...
Oui, c'est de la résolution de conflits aussi.
Ça va être de la résolution soit de conflits, soit finalement une prise de hauteur par rapport à quelle est la bonne solution, et ça va souvent être en arbitrage entre une solution qui va être techniquement meilleure mais financièrement plus chère et qui va prendre plus longtemps. Enfin, finalement, les arbitrages qui me remontent, c'est plutôt des arbitrages d'ordre, oui, managériaux, gestion, finance, voilà. C'est, est-ce qu'on fait un truc très chiadé, mais qui va prendre 3 ans, ou est-ce qu'on fait le truc intermédiaire, et ça, bah, c'est une décision qu'on va prendre collégialement avec, avec l'armée de terre, quoi.
Alors justement, ça, c'est très intéressant, cette question de la résolution des problèmes et des conflits ou pas, mais parce que on le voit, c'est, enfin, y a plein d'industriels qui sont là dans absolument tous vos équipements.
Bien sûr.
Je prends n'importe lequel, il y a donc Arcus, ancien
Renault Trucks
Défense. Il y a donc ça c'est vraiment pour le truc qui roule, quoi. Il y a Nexter.
Ouais, Arcus, il fait la mobilité des véhicules, donc tout ce qui est liaison au sol, roue, c'est Arcus pour Léo Griffon et le Jaguar.
Ouais. Il y a Nexter qui fait beaucoup des équipements, ouais, notamment des canons, etc. Il y a Atos qui fait tout le système.
Le SICKES.
Il y a Thales qui fait la radio,
voilà,
et pas que, et des radars, et des trucs comme ça. Il y a MBDA pour le moyen missile, moyenne portée.
Tout à fait.
Donc en fait, tout
ça. Safran aussi avec des viseurs. Ouais.
Donc il y a une infinité. Mais du coup, ça fait que c'est autant de parties qui peuvent merder en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pas révolutionnaire que de dire que souvent dans l'armement et dans l'industrie en général, il y a parfois des retards de développement.
Bien
de
sûr, bah, et puis c'est souvent aux interfaces que ça merde, effectivement. Ouais.
Et du coup, comment on fait ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on jongle en quelque sorte avec tous ces. Parce que c'est des lignes qui sont très différentes, quoi. C'est des process qui sont très différents. Et s'il y a un pion qui est en retard, alors, je veux dire, on ne va pas faire partir un Jaguar sans canon, quoi. Donc, s'il y a un pion qui est ou sans radio ou sans autre chose, quoi. Donc, s'il y a un pion qui est en retard, tous les autres sont ralentis.
Bah ça, c'est un peu le job du directeur de programme, justement, enfin, de la directrice de programme. J'ai souvent l'impression que je tiens un château de cartes, quoi. Hein, que s'il y a une carte qui s'écroule, c'est un peu le système qui. Donc oui, enfin, je sais pas répondre à la question comment on fait, quoi. On le fait, enfin, on a un peu un œil partout, on a des on va dire des routines managériales et de gestion de projet qui font que on est quand même c'est notre métier à la DGA de gérer des projets, donc comment je fais, moi je reçois mes collaborateurs régulièrement, on fait des réunions d'équipe, chacun présente l'avancement de ses dossiers.
Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre la main ou de donner un coup de main à l'industriel s'il est trop en retard, etc., parce que c'est tout le projet qui est menacé, ou est-ce que après tout c'est des commandes auprès d'entrepreneurs, alors certes souvent à capitaux d'État, mais privé.
Non, mais on a une relation contractuelle, enfin, entre l'industrie et la DGA, il y a un contrat, le contrat doit être respecté. Ensuite, dans la conduite, oui, bien sûr, c'est un partenariat. Et donc, ça m'est déjà arrivé moult fois d'envoyer des experts DGA sur un centre d'essai parce que l'industriel faisait ses essais industriels et qu'il rencontrait une difficulté qu'il n'arrivait pas forcément à calibrer, ou il avait besoin de retours d'expérience d'experts qui avaient vécu la même chose sur d'autres véhicules et qui pouvaient aider. Donc oui, bien sûr que ça arrive. À la fin, c'est un partenariat. Dans l'exécution, c'est un partenariat. Ensuite, il faut jamais oublier qu'il y a un contrat, que le contrat, on doit le respecter. Mais au quotidien, on s'ajuste. Oui, par exemple, un exemple qui est arrivé sur la chaîne de. Alors, les véhicules, ils sont produits à Rouen. Donc, sur la chaîne de production à Rouen, imaginons qu'il y a un fournisseur qui ait fourni un lot de vis défectueuses. Bon, bah, le service qualité. Alors, soit de Nexter, soit le service qualité de la DGA, parce que je n'ai pas encore parlé du service qualité, mais on a aussi des personnels de la DGA qui sont à poste dans les usines de production pour vérifier en sortie de chaîne les matériels qui sont bien conformes à leur dossier de définition, etc. Donc, le service qualité, peu importe lequel, finalement, on va se rendre compte qu'il y a un lot de vis non conforme, puisqu'il y a des contrôles qui sont faits. Donc le directeur de programme industriel, il va m'appeler, il va me dire, bon bah Marie, on a 5 véhicules qui doivent être livrés la semaine prochaine et on a piégé un défaut. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc moi je vais lui. Enfin, la première analyse, c'est de dire le contrat, c'est le contrat. Donc s'ils sont pas livrés la semaine prochaine, t'es en pénalité, quoi. Enfin bon, ça c'est l'analyse un peu premier degré, bête et méchante. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, c'est-à-dire que on regarde avec les experts DGA, on regarde avec l'armée de terre. Si l'armée de terre a un besoin urgent des véhicules, et qu'on se dit que finalement cette vis c'était pas un élément de sécurité parce qu'elle était juste là pour tenir le pare-soleil, enfin bon, je donne un exemple au hasard, hein. On va dire bon bah ok, livrez-nous les véhicules, on les réceptionne tels quels, avec une réserve, une dérogation, et puis quand vous recevrez le lot de vis conforme, bah, c'est à vous, industriel, de venir vous déplacer là où ils sont en régiment pour venir changer la vis. Bon bah voilà, fin de la passe, on prend cette décision-là. Si cette vis, elle rentre dans un organe de sécurité, bah, on va prendre une décision toute différente. On va dire, bah non, bah, vous les gardez à Rouen tant que c'est pas repris, réparé. Et puis là, bah, le chef de projet, il va me dire, ah oui, mais tiens, par exemple, j'ai un autre véhicule, un véhicule Griffon d'une autre version santé, qui devait être livré, lui, dans 3 semaines, mais il est déjà prêt. Est-ce que ça t'intéresse qu'on inverse les deux? Alors, je vais demander... Alors, mais terre, vous le voulez, le Griffon Santé, vous avez... Ah bah ouais, ça tombe super bien, on en a besoin maintenant. Bon bah voilà, on va dire, bah, livrez-nous les Griffons Santé à la place de ceux-là. Comme ça, vous ne serez pas pénalisé sur le retard. Enfin, voilà. Donc au quotidien, on a ce type de discussion bah, pour que le projet il avance et puis dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde.
Mmh, on mesure qu'il y a un degré d'intimité assez fort.
Il y a un degré d'intimité assez fort, ouais.
Parce que souvent, d'ailleurs, il y a pas mal d'ingénieurs qui sont dans ces groupes-là, qui sont d'anciens de la DGA et vice-versa. Donc il y a aussi un... Enfin, je ne sais pas si c'est un milieu, mais en tout cas un niveau d'interconnaissance qui est utile pour mettre de l'huile dans les rouages, quoi.
Alors moi, je ne les connaissais pas au départ, mes interlocuteurs industriels. Enfin, je les avais jamais rencontrés auparavant dans ma vie précédente. Forcément, il y a une question de rapport humain. Il y en a avec qui ça se passe mieux que d'autres. Mais dans l'ensemble, enfin, moi, je tiens absolument à ce que ça reste un esprit de partenariat, quoi. Enfin, c'est indispensable. C'est indispensable, et que ce soit avec les forces ou avec les industriels. Oui, enfin, on a tous nos portables perso et on s'appelle quand il y a une galère. C'est clairement la manière dont ça fonctionne. Alors peut-être que tous les directeurs de programme ne vous diraient pas ça. Mais oui, sur Scorpion, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut, parce que sinon, si on ne cherche pas une solution ensemble à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente, on ne trouve pas de solution tout seul.
Et alors, in fine, donc là, fin 2023, début 2024, où est-ce qu'on en est de Scorpion, c'est-à-dire, donc on mesure, on l'a dit, c'est progressif, il y a encore des VAB, il y a encore des AMX 17C,
ouais. Il y en aura encore un certain temps.
Oui, c'est ça, ils vont rester là, ils vont cohabiter.
Ouais.
Dans quelle mesure est-ce qu'ils cohabitent, dans quelle mesure est-ce qu'ils interagissent, et puis surtout, à quelle vitesse est-ce qu'on livre des véhicules Scorpion, et à quel moment est-ce qu'on espère qu'on aura tout Scorpion? Si tant est d'ailleurs que ce soit un objectif, parce qu'on pourrait aussi vouloir dire que...
Non, c'est un objectif, il y a une cible. Il y a une cible finale, donc la cible finale de Scorpion, c'est 1872 Griffons, dont 54 MEPAC, 300 Jaguar et 978...
Les mortiers,
ouais, le MEPAC, c'est les mortiers. 300 Jaguar et 978 Serval. Cette cible, elle sera atteinte... Alors, on a coutume de dire à horizon, parce que c'est pas une année près, parce que c'est post-LPM. Donc, post-LPM, la loi de programmation militaire, elle programme de manière très précise jusqu'en 2030. Et ensuite, tout ce qui est post-LPM n'est pas programmé annuellement, on va dire. Mais à l'horizon 2035, on aura fini les livraisons Scorpion.
Et donc, il n'y aura plus que du Scorpion dans l'armée de terre.
Et donc, au fur et à mesure, les véhicules précédents sont retirés. Donc oui, il n'y aura plus que du Scorpion dans l'armée. Enfin non, il y a des véhicules qui ne sont pas Scorpion, hein, mais il n'y aura plus de VAB et de 10RC, en tout cas. Scorpion ne couvre pas tous les véhicules de l'armée de terre. Hein, des véhicules type véhicules sanitaires, camions citernes, etc. Enfin, c'est pas tous les véhicules de l'armée de terre. Mais sur les véhicules que Scorpion remplace, c'est à cet horizon-là qu'ils auront fini leur retrait de service. Après, quelle fréquence? Bah, on livre une centaine de griffons par an, une vingtaine de jaguars par an. Voilà.
Mais comment est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que vous remplacez un régiment d'un coup? Parce que, puisque ça doit être en boucle, quoi. Enfin, c'est
sûr. Oui, c'est ça. En fait, l'armée de terre transforme des régiments. Alors, elle transforme plutôt des unités dans des régiments. Donc, par exemple, dans les premiers régiments transformés, on va transformer une compagnie. Et puis, il y a une compagnie Griffon, une compagnie qui va rester sur VAB. Mais oui, on ne peut pas faire un véhicule Griffon qui va arriver au milieu de... Donc, ça, si on fait ça, on ne bénéficie pas vraiment de l'apport complet du programme. Donc, c'est l'armée de terre qui planifie cette transformation. Et effectivement, transforme régiment par régiment. Donc un régiment pourra complètement transformer Scorpion. Sur Griffon, ça lui prend à peu près un an, entre le moment où il perçoit les véhicules et puis le moment où on considère qu'il est bon pour partir en OPEX avec ces véhicules-là, quoi. Ça passe par des entraînements aussi en réel. Enfin, à la fin de son entraînement, le régiment se fait un exercice dans les centres type Saint-Tac ou Sansub, là, les centres d'entraînement en live, pour le coup, ils viennent avec leur véhicule et donc ils ont des rotations de 96 heures où ils jouent un vrai combat contre une vraie force adverse et ils sont évalués par des formateurs pour voir s'ils ont vraiment bien pris en main leur matériel, la doctrine qui va avec, etc.
Et là, à l'heure actuelle, on a combien de régiments comme ça?
Je sais pas. Je risquerais de dire une bêtise parce que le nombre de régiments qui sont transformés Scorpion, j'en sais rien. Je sais que sur Serval, on en est à deux. Sur Griffon, j'ai un peu perdu le fil parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Donc je vais vous dire une dizaine, mais je pourrais dire une bêtise, hein, je sais pas.
Ouais. Et du coup, s'il y a une guerre... c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un objectif que dès maintenant, il faut que ce soit projetable au sein de, je sais pas, d'un GTIA?
Alors Griffon, oui. Griffon, il est projetable. En fait, sa première projection, c'était en 2021 au Sahel. Donc Griffon est complètement projetable. Je pense que s'il y avait des véhicules de ce type-là à projeter, on choisirait probablement de projeter plutôt des Griffons. Serval, sa première projection devrait être à l'été 2024. Voilà. Et pour ce qui concerne le Jaguar, on envisage plutôt qu'il soit projetable en 2025.
Alors pourquoi plus long, alors qu'il a été introduit avant le Serval?
Alors il a été introduit avant. Mais c'est un véhicule qui est beaucoup plus complexe, donc ses capacités elles arrivent au fur et à mesure, donc on n'a pas encore parlé de ça, mais Scorpion c'est un programme incrémental, donc pour l'instant les Jaguars ils sont pas dans leur standard définitif, voilà. Donc pour qu'ils soient projetables, il faut encore qu'ils aient un petit upgrade qui devrait arriver en 2024. Et donc, le temps que les formations aient lieu, etc., on imagine que c'est... Que l'appropriation ait lieu, on imagine que c'est en 2025 qu'il sera vraiment projetable sur un théâtre extérieur avec toutes ses fonctionnalités.
Justement, c'est incrémental. Là, on en est où en termes d'incrément?
Sur le Jaguar?
Ouais, en général, en fait.
En général, alors, comment ça fonctionne les incréments Scorpion? Alors, il y a deux types de démarches incrémentales. Il y a la démarche incrémentale planifiée, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure du budget du programme Scorpion. En plus de ce budget-là, on appelle ça un devis en langage déjà, en plus de ce devis-là, j'ai la chance, ou plutôt l'armée de terre a la chance, qu'on ait aussi des budgets qui soient prévus pour faire évoluer le programme. Donc on prend en compte principalement les retours d'expérience qui reviennent des régiments qui emploient les véhicules, donc le Sahel. Et donc là, on vient de notifier l'incrément 2 du Griffon. Donc le Griffon, on a pris un certain nombre de retours d'expérience du Sahel. Alors des choses très concrètes, des pare-soleil pour les tireurs qui sont sur le toit des véhicules. On a étanchéifié les coffres arrière du véhicule qui avait tendance à se remplir de bouffe. Enfin, plein de choses très concrètes. On a déplacé un marchepied pour pouvoir brancher une prise de parc. Enfin, plein de petites choses. Et puis aussi des choses un peu plus technologiques, comme des nouvelles fonctionnalités dans le SICS. Une meilleure communication avec le système Atlas, qui est le système d'information de l'artillerie, etc. Donc là, on vient de notifier un incrément pour le Griffon, avec un package, on va dire, de mesures d'amélioration qui nous viennent du retour d'expérience. Donc voilà, ces véhicules, ils progressent en continu. Puis en plus de ces incréments-là, il y a tous les petits faits techniques qu'on appelle de vie série du véhicule. Le véhicule, il vit. Et donc, des fois, il y a une casse, il y a un truc dont on se rend compte qu'il n'a pas tenu autant qu'on aurait voulu entre deux maintenances. Et donc là, ça, pour le coup, c'est plutôt un fonctionnement type appel à garantie. C'est l'industriel qui est en cause. Et donc qui va proposer lui des évolutions en disant effectivement tel équipement, on se rend compte que la conception était peut-être un peu faiblarde, donc on vous propose de le remplacer par un truc. Et ça, des petites évolutions comme ça, on en valide au moins une cinquantaine par an. Donc c'est plein de petites choses, mais qui font que le matériel il s'améliore en continu, quoi.
Et par exemple pour le Jaguar, donc, puisqu'il y a des choses qu'il faut déjà améliorer avant de pouvoir le projeter, je ne sais pas si vous pouvez le dire, c'est quel genre de, même philosophiquement, quel genre de
choses? En fait, sur le Jaguar, là, c'est les capacités principalement du système tourelle. Donc tout ce qui est mobilité est finalisé. Et les capacités du système Tourelle, on a décidé de les introduire au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans un premier standard qui date de 2021, le Jaguar, il tirait uniquement sur des cibles fixes. Voilà, depuis l'année dernière, il tire sur des cibles mobiles. Et donc, ce qui nous manque encore, c'est la partie missile MMP. Et donc, ça, c'est la capacité qui arrive l'année prochaine. Donc, voilà, c'est la dernière capacité de la tourelle qui n'est pas encore finalisée.
Et alors, justement, il y a le RETEX interne aux armées françaises, Sahel, etc., Lynx, présence avancée, etc. Il y a aussi, évidemment, la question qui se pose du RETEX Ukraine, dans une certaine mesure. Tout le monde le fait, le chef d'état-major de l'armée de terre le fait, enfin, tout le monde tire des leçons depuis 18 mois. Est-ce qu'il y a des RETEX spécifiques? Parce qu'on l'a dit un peu au début, mais bon, évidemment que c'est des équipements qui ont été un peu faits avec, dans l'esprit, dans une certaine mesure, les OPEX des années 2000 et 2010. Pour autant, on espère bien qu'ils sont adaptés à la haute intensité, mais un peu plus précisément, est-ce qu'il y a eu des incréments, enfin des demandes particulières qui sont arrivées pour adapter à l'évolution de la menace stratégique telle qu'elle apparaît dans les documents officiels et dans les observations de tout le monde, quoi?
Alors, il n'y a rien de nouveau. Il y a eu des confirmations de choses auxquelles on pensait déjà, notamment sur les aspects, on en parlait déjà un peu, mais sur les aspects cyber. Sur les aspects robustesse cyber et sur les aspects résistance au brouillage, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses qu'on constate en Ukraine et dont on sait que nos véhicules qui sont très technologiques doivent être toujours à la pointe sur ces sujets-là, quoi. Donc ça, c'est des priorités, on va dire, pour les incréments futurs de Scorpion. Ouais.
Mais même en termes de... Bon, d'abord, il y a un truc de... C'est des équipements qui sont incroyablement technologiques et aussi très chers, et etc. Et en tout cas, ça a été une leçon tirée à certains moments de la guerre d'Ukraine de il faut du rustique, il faut de la masse, etc. Ouais, etc. Donc tout ça, on se pose évidemment la question de... On a ces bijoux de technologie. Dans quelle mesure est-ce qu'ils survivent à... Pas deux semaines, mais deux mois ou deux ans de guerre sur un terrain comme l'Ukraine. Et puis, il y a aussi des menaces plus spécifiques, mais dont on sait peut-être, je ne sais pas, les drones. Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça a été intégré ou pas?
Moi, à mon niveau, je déroule mon programme. Donc, les réflexions qui vont toucher les programmes futurs, finalement, je n'y suis pas particulièrement associée. Si je reviens un peu sur le fonctionnement de la DGA, on a un service qui s'appelle le service d'architecture des systèmes de défense, qui est justement en charge de préparer les programmes futurs en lien avec l'état-major des armées, les systèmes futurs, de penser à la guerre de demain, de penser à la manière dont on va concevoir. C'est plutôt eux qui sont en tête de file sur comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait, les choix entre, comme vous dites, la technologie, la robustesse, etc. Aujourd'hui, concernant le RETEX, vraiment...
La philosophie des équipements, leur coût, tout ça, ça ne changera pas pour Scorpion. Donc,
voilà, exactement. Ça ne changera pas pour Scorpion. Ensuite, sur la philosophie, ça ne changera pas pour Scorpion. Ensuite, sur des améliorations et des retours d'expérience qui permettent d'améliorer les véhicules, il y en a beaucoup. Il y en a toujours qui tombent. Aujourd'hui, moi, franchement, dans le catalogue qu'on garde pour les incréments futurs, en disant voilà ce qu'on aimerait faire comme amélioration, j'ai rien vu de particulier qui soit spécifique au RETEX Ukraine et auquel on n'avait pas déjà qu'on n'avait pas déjà en catalogue précédemment.
Là-dedans, bon, alors c'est le mot du moment, mais il y a évidemment, pour un système qui est autant info valorisé, et puis vous parliez d'ailleurs au début d'algorithmes, etc. Bon, en ce moment, tout le monde parle d'IA, d'intelligence artificielle de diverses manières, et se demande comment les intégrer ou pas des équipements. Est-ce que il y a des pistes? Bon, après tout, il y a déjà une immense architecture informatique, donc on pourrait imaginer insérer des choses, mais en même temps, peut-être que c'est pas la philosophie.
Si, c'est la philosophie. On a une architecture qui, a priori, nous permet de faire évoluer nos algorithmes. Alors, on a déjà un mode de fonctionnement avec des aides à la décision qui sont automatisées, avec des algorithmes qui automatisent des choix des facteurs, par exemple, quel va être le véhicule qui va être le mieux placé pour traiter telle ou telle menace.
Précisons, ça n'est pas c'est même pas le logiciel qui va appuyer sur le bouton.
Absolument,
mais en tout
pas.
Cas, c'est
ici, il va faire des propositions. Voilà, il va faire un certain nombre de propositions finalement au chef tactique qui va lui-même décider. On n'est pas très loin de l'intelligence artificielle, en fait. Ce qui n'est pas encore implémenté, c'est le fait que ces logiciels soient apprenants, parce que finalement, c'est ça la... Enfin, en tout cas, moi, tel que je le perçois, c'est un peu ça qui fait le qui va nous mettre dans la case intelligence artificielle. Donc, en termes d'architecture du système, rien ne s'y oppose. Les premières applications qu'on y verrait, ce qu'on cherche à regarder, c'est pour tout ce qui est DRI automatique, c'est-à-dire détection, reconnaissance, identification. Donc, on a des caméras. Sur le véhicule, on a une caméra 360 qui s'appelle Antares, qui est sur le toit des véhicules. Et puis, on a aussi un certain nombre de caméras type Tesla, hein, quoi, des caméras qui sont un peu partout autour du véhicule. On travaille sur des algorithmes qui vont permettre de reconnaître, de faire de la reconnaissance, en disant, avec ces images-là, en disant classifier ami, ennemi, c'est tel char, tel pays, voilà.
Et ça, pour ça, dans quelle mesure est-ce que c'est des... Parce que maintenant, c'est l'Eldorado, l'IA, il y a énormément de start-up qui ont des fonds monstrueux, mm-hmm. françaises, surtout américaines, mais pas que. Dans quelle mesure est-ce que c'est des compétences que vous pensez pouvoir développer en interne à la DGAP? Parce que en même temps, c'est compliqué. Il y a des informations classifiées, c'est des technologies sensibles, etc. On ne peut pas prendre des trucs sur étagère. Et en même temps, il y a aussi tellement de start-up qui apparemment ont de l'avance sur un certain nombre de choses. Alors, dans quelle mesure est-ce que le partenariat public-privé peut fonctionner sur ces domaines qui sont tout nouveaux, quoi?
Ouais, alors on a mis en place pour préparer la suite de Scorpion, puis la suite du domaine terrestre, du matériel terrestre en général. On a mis en place un projet qui s'appelle Hyperion et dont la vocation est justement on a un groupement industriel qui est en charge de ce projet-là, Hyperion. Donc ce groupement industriel, c'est Thales, Nexter et Safran, donc c'est gros. Mais ce qu'on leur demande, c'est justement d'aller chercher partout dans le paysage des startups et des milieux académiques français des idées et des réalisations et des produits pour pouvoir faire des algorithmes. C'est principalement de l'algorithme, mais pas que. Et de nous proposer des projets. Qui puissent participer à ces démarches du Scorpion du futur. L'intérêt de ce montage-là, c'est justement d'avoir les maîtres d'œuvre en interface, parce que c'est toujours là que le bas peut blesser. Il y a plein de propositions, mais on ne peut pas dire à une petite start-up de directement venir s'interfacer avec le véhicule, on ne va pas lui livrer les images de l'armée de terre qu'on a en banque de données, etc. Donc oui, le fait d'avoir les grands maîtres d'œuvre en prime, entre guillemets, mais de leur imposer une démarche où ils doivent aller chercher les pépites dans l'ensemble du paysage scientifique et technologique français. Voilà, c'est comme ça qu'on a déjà procédé comme ça pour un certain nombre de projets, et ça donne plutôt satisfaction.
Merci beaucoup, ingénieur en chef de l'armement Marie. Je peux signaler que pour tous ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus sur le programme Scorpion, il y a énormément de contenu qui est mis en ligne par l'armée de terre, qui est mis en ligne par la DGA, qui est mis en ligne aussi par les industriels, Arcus, Nexter, etc. Donc il y a évidemment énormément de pistes pour approfondir tout ça. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Rondreau-Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.